RMC. La et l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Alors, dans cette deuxième heure, nous continuons avec Bruno Poncenard à aborder tous les sujets qui vous passionnent. Et bien sûr, vous nous appelez au 3216. Ensuite, eh bien, c'est Arnaud Rioux qui sera avec nous. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est un coach pour dirigeants et il va nous parler du chaman. Il va vous proposer de réveiller le chaman qui est en vous. Donc, c'est quand même un équilibre assez intéressant. Et puis, notre fil d'Ariane nous emmènera à nouveau avec les sextoys et les armes de guerre. Et puis en love conseil, eh bien, je vous parlerai de notre comportement sexuel qui est tout à fait intéressant à comprendre quand on rencontre un nouveau ou une nouvelle partenaire. Alors Bruno Poncenard, je vous propose qu'on continue également à répondre aux questions de notre Wikisex. Et voilà, alors figurez-vous qu'on est avec une partenaire qui est un petit peu coincée et on aimerait bien proposer fellation ou sodomie. Comment on fait ?
Très bonne question.
Et la réponse va être très bonne aussi, j'en suis sûr, Bruno Poncenard.
D'abord, c'est est-ce qu'on doit faire ?
Bah, on a très envie de faire.
Alors voilà, si j'ai très envie, c'est à moi d'être assez séduisant et d'arriver à voir un petit peu si je peux faire ou pas. Après, ça dépend comment c'est demandé, comment c'est proposé. Et puis s'il y a un refus, parce que effectivement, il peut y avoir des refus, c'est de comprendre quelles sont
les résistances,
à quoi elles sont liées. Et là, j'allais dire, si c'est des résistances fondamentales, ben on fait pas. Et si c'est des résistances parce que c'est la peur, on parle par exemple de la sodomie.
La sodomie,
c'est la peur d'avoir mal. Ça peut être parce que je trouve ça sale, parce que c'est contre nature, parce que donc tout ça, c'est des résistances. Si après vous avez une partenaire qui vous dit non, moi ça me fait trop mal, je veux pas souffrir, ben on passe à autre chose, quoi.
Souvent d'ailleurs, quand une femme refuse la sodomie, c'est parce qu'il y a des croyances comme ça négatives, mais ça peut être aussi parce qu'il y a eu une première mauvaise expérience.
Bien sûr.
Et ça, c'est pareil, ça peut se parler.
Après, ça peut se parler. On peut expliquer pourquoi, quelle est la motivation, pourquoi j'ai envie, la possession ultime, etc., etc. Et puis le faire ça en utilisant des gels. Il y a plein de gels maintenant pour arriver à moins souffrir, prendre le temps et habituer la partenaire, si elle a le désir, de participer à cette expérience à deux. Après, pour la fellation, c'est un petit peu la même chose. Il y a des femmes qui vous disent c'est sale. Si une femme vous dit je n'aime pas le goût, ben on prend des préservatifs parfumés par exemple, et comme ça on enlève le problème de goût
pour
avoir une hygiène relativement irréprochable à ce moment-là aussi.
C'est mieux.
Donc c'est aussi parce qu'il y a des hommes des fois qui proposent mais qui se rendent pas compte que un sexe d'homme, quand ça a macéré une journée dans un caleçon ou dans un slip, ça sent pas forcément super bon. Donc voilà, il y a tout ça à voir d'un côté. Et après il y a autre chose, c'est dans la relation, c'est qu'est-ce que moi je propose de l'autre côté. Moi j'ai plein dans ma consultation, j'ai plein de femmes par exemple qui sont dévouées à leurs hommes et qui leur font des fellations, et quand on parle de cunnilingus ou de préliminaire, monsieur doit s'en occuper 5% et madame 95%. Ou l'inverse.
On réclame l'égalité là aussi.
Exactement. Alors, il faut être conscient que dans ces pratiques-là, il y a quelque chose d'assez égoïste parce que c'est un plaisir qu'on veut ressentir. Mais quand on fait l'amour, on doit donner à l'autre autant que ce qu'on lui prend. Et quand un homme est force de proposition pour une fellation, ben, il faut que lui, en contrepartie, il y ait par exemple un cunnilingus, quoi. Mais il faut aussi entendre les limites de l'autre et que des fois, ces limites, elles sont pas, on peut pas les bouger. Donc, si on est avec quelqu'un qui vous dit j'ai mal, je ne peux pas parce que j'ai mal, ben on peut pas non plus la forcer à aimer quelque chose qu'elle n'aime pas.
Et d'ailleurs, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire mal a priori.
Exactement.
Évidemment. Toutes les réponses de ce Wikisex, vous les retrouvez sur rmc.fr. Alors, on va continuer avec Laurent qui est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous avez une trentaine d'années et
oui.
Bonjour Laurent.
Votre femme vous a annoncé qu'elle ne vous aimait plus.
Oui, ben c'était relativement dur, je m'y attendais pas, je l'ai pas vu venir en fait, et elle m'a annoncé ça. Et j'ai pas bien compris le sens au début, donc du coup j'ai été dans multiples questions pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et c'était il y a quelques semaines, donc j'ai quand même insisté dans pas mal de paramètres pour savoir ce qui se passait concrètement. Elle m'a avoué qu'elle avait croisé quelqu'un et qu'elle avait ressenti des vibrations pour cette personne. Et du coup, ça avait été un peu le déclencheur elle s'est demandé en fait.
Elle en a déduit que puisqu'elle vibrait pour quelqu'un d'autre, elle ne vous aimait plus, ce qui n'est pas forcément aussi systématique que ça.
Ben voilà, elle en a déduit ça. Après, elle m'a dit, mais je lui dis, dis-moi ce que tu me reproches, il n'y a pas de problème, j'entends tout, quoi. On peut tout comprendre. Hein. Et en fait, elle m'a dit, mais je te reproche rien. Ah, c'est encore plus dur, j'aurais préféré qu'elle me reproche quelque chose. Je ne reproche rien, j'ai rien à dire sur toi, il n'y a rien à dire, t'es parfait. Mais en fait, c'est plat, c'est vide, c'est creux. Alors c'est dur parce que...
Laurent, votre femme a le même âge que vous ?
Non, elle est un peu plus jeune.
D'accord.
Et donc, résultat, je voudrais aujourd'hui me battre pour mon couple et pour mon fils, parce que mon fils est petit, bas âge, quoi. Et je me dis, si on se sépare aujourd'hui, le pauvre, il n'aura jamais vu un Noël avec ses parents, il n'aura jamais vu...
Oui, Laurent, je crois qu'il faut vraiment, dans votre cas, essayer de pouvoir qu'elle accepte que vous ayez un rendez-vous avec un conseiller conjugal. Alors, ne lui dites pas pour continuer à rester ensemble, mais pour vous séparer pour le mieux. Parce que là, je pense qu'elle est complètement enflammée par un autre homme, parce que justement, peut-être le fait qu'elle soit devenue maman, le fait que vous avez peut-être été un peu trop dans la routine. Donc, elle a l'impression qu'elle vous aime plus parce qu'elle est, elle vibre pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas sûr du tout que ce soit ça, je ne sais pas. Mais...
Non, c'est pas sûr. C'est un peu le souci, c'est que j'aurais préféré, à la limite, c'est ce que j'ai dit, j'aurais préféré qu'elle me trompe, ça aurait été beaucoup plus clair. Alors que là, elle a senti quelque chose pour quelqu'un.
Mais Laurent, même pas, qu'elle soit passée à l'acte ou pas, je vais pas ramener ça au rang de l'anecdote, mais pas loin, c'est le fait qu'elle elle vient de réaliser que même si elle a été attachée à vous pendant de nombreuses années, là, elle peut s'émouvoir pour quelqu'un d'autre. Après, on trompe ou on trompe pas, ça c'est anecdotique, vraiment, Laurent. Ouais. Après, voilà, elle vient de vivre une émotion en se disant, tiens, je peux plaire encore à quelqu'un, je peux... Et là où Brigitte a raison, c'est d'aller voir quelqu'un, ça va vous permettre de faire un état des lieux de votre couple.
Alors j'ai demandé, je lui ai dit, j'aimerais qu'on aille voir quelqu'un.
Ouais.
C'est un refus catégorique.
Oui, mais parce qu'elle est totalement immature là, elle est complètement dans des émotions qui ne sont absolument pas comprises par elle-même. Donc il faut insister, il faut juste lui dire, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas lui dire on va voir quelqu'un pour sauver notre couple, on va voir quelqu'un pour qu'on puisse se séparer de la meilleure manière.
De la meilleure manière possible, et puis parce que ça va vous aider à vous, hein, il faut lui dire que vous lui demandez de l'accompagner pour vous aider à vous. Parce que si vous y allez en disant, moi je veux te reconquérir, ou alors elle va se sentir mise au banc en disant, voilà, c'est moi la responsable. Déjà, elle doit quand même culpabiliser, même si elle est capable de vous dire qu'il n'y a plus d'amour. Donc c'est vraiment pour lui dire, voilà, essayons de réussir, réussissons une séparation intelligente. S'il n'y a plus d'amour, on verra bien, mais...
Je pense qu'elle a un peu trop lu les contes de fées et elle n'est pas assez dans la réalité, parce que donc il faut quelqu'un d'autre va pouvoir un petit peu peut-être la remettre face à sa réalité, parce que vibrer pour quelqu'un d'autre, bah ça nous arrive tous à des tas de moments de notre vie. C'est pas pour ça qu'on remet tout en cause. Et si vous avez en effet un enfant en bas âge, si elle a rien à vous reprocher, il est pas sûr du tout que votre couple soit fini. Elle serait peut-être d'ailleurs la première à s'en mordre les doigts dans 2 ans.
Bien sûr, parce que c'est pour ça que je vous demandais son âge. Il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Qui rit de milieu de vie, voilà, on a tous des moments de flottement où on se dit, voilà, je viens de passer 20 ans, 25 ans, 30 ans avec la même personne, ou 10 ans, qu'importe, hein. Et la crise, c'est quoi? C'est une introspection sur ce qui vient de se passer, et on se dit, ben, ça j'ai pas fait. Mmh.
Elle est plus jeune que vous, donc elle est très jeune, elle est loin de 40 ans, mais elle a mis au monde son bébé il y a combien de temps, Laurent?
Mais il a 16 mois, donc...
Je pense que c'est le contre-coup de la maternité, là. Hein,
le besoin de se sentir plus femme, plus désirée, plus...
Le gros dilemme aussi, c'est le côté sexuel, où c'est carrément une catastrophe, quoi.
Ben oui, mais tout ça...
Parce qu'elle n'a plus d'envie, ou parce que vous n'avez plus d'envie?
Elle n'a plus d'envie du tout.
Oui, donc elle est complètement paumée, là, Laurent.
Ouais.
Parce qu'avant de savoir si on aime plus son conjoint, il y a une chose importante à savoir, c'est est-ce que je m'aime moi. C'est de façon très narcissique, c'est qu'est-ce que je pense de moi. Et je vous garantis que dans des problématiques comme vous nous exposez, moi j'en vois régulièrement, très très souvent, quand on demande à la personne qui veut laisser l'autre, mais qu'est-ce que vous pensez de vous, il y a un grand blanc. Hein.
Merci Laurent et bon courage. On va donner maintenant la parole à Marie qui a été voir cette comédie de Corinne Yafil et Thierry Ragneau. Bon anniversaire mon amour, ça se joue en ce moment à la Comédie Bastille dans le 11e à Paris. Et alors on en parle de cette pièce parce que ça parle évidemment beaucoup d'amour. Vous l'avez vu Marie, alors est-ce que ça vous a plu?
Oui, je l'ai vu avec une amie et un dimanche soir et ça m'a énormément plu. Voilà, ce couple qui fête ses 15 ans d'anniversaire de mariage et justement cette femme un peu comme l'auditeur qu'on vient d'entendre qui a l'air de rencontrer quelqu'un et qui est dans un moment où elle hésite justement entre où elle se demande si l'homme avec qui elle vit l'aime toujours autant, si elle mérite son amour. Et moi qui suis en couple depuis très longtemps, les rapports hommes-femmes, peut-être qu'ils sont décrits dans la pièce, m'ont beaucoup fait rire. C'est très drôle. Et puis évidemment, je me suis reconnue. Mon amie aussi, qui elle n'est pas en couple, a adoré. C'est vrai que.
C'est drôle, hein, bien sûr.
C'est très, très drôle.
Alors c'est peut-être à voir en couple justement pour un peu
en couple, mais pas que, parce que c'est des relations de couple évidemment, mais c'est aussi les rapports hommes-femmes, c'est le quotidien.
Non mais je disais de voir le voir en couple pour justement, ça sert un petit peu de bilan de son couple en s'amusant quoi.
Oui, en s'amusant et puis pas oublier qu'il faut toujours alimenter une certaine flamme et c'est cette joute là entre les deux qui est intéressante, en tout cas moi qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait effectivement réfléchir. En sortant de là, on réfléchit un petit peu. Après, il n'y a pas que ça. Il y a donc aussi une scène d'orgasme qui vaut le coup d'être vue.
Une scène d'orgasme sur scène, dites-moi.
Oui, tout à fait. Non, c'est extrêmement drôle. C'est bien amené, c'est bien vu. Cet homme, tout un peu lâche, hein, parce que voilà, je ne vais pas dire que tous les hommes sont lâches, mais voilà, qui a un peu du mal à. Qui ne voit pas les choses venir et qui en même temps, on le sent, aime encore sa femme. Et puis, cette femme qui est dans l'hésitation, qui a juste envie qu'on lui dise qu'on l'aime, et moi, c'est pareil pour toutes les femmes.
Alors, ça s'appelle Bon anniversaire, mon amour. C'est le dimanche et le lundi à 20h30 à la Comédie Bastille dans le 11e à Paris, mais vous retrouvez ça, bien sûr, sur rmc.fr. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Bruno Poncenard,
pour ces bons moments.
Ces conseils avisés et qui vont certainement aider beaucoup de ceux qui nous écoutent. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil et Arnaud Rioux, et on va parler du chaman, nous. Dans un instant.
RMC, La Haye, l'amour et vous. RMC, Brigitte La Haye, Love Conseil.
Alors je vais vous parler aujourd'hui dans ce Love Conseil de notre comportement sexuel. Vous savez, l'être humain, on devrait le savoir un peu plus, c'est un être d'habitude. Il aime repérer ce qui lui va bien et il aime répéter le même comportement. Et bien, figurez-vous que c'est exactement pareil sur le plan sexuel. Alors c'est essentiel à comprendre parce que lorsqu'on va changer de partenaire, par exemple, alors on va prendre un exemple d'un homme, hein, il avait enfin trouvé le mode d'emploi pour faire jouir sa partenaire et donc obligatoirement avec la nouvelle compagne il va vouloir faire exactement pareil, sauf que c'est une autre femme, donc elle est peut-être tout à fait différente. Donc il est indispensable à ce moment-là d'accepter de s'adapter et donc de changer un peu son comportement. Voilà pourquoi il n'y a pas d'urgence dans une rencontre sexuelle. Une rencontre sexuelle, c'est souvent d'ailleurs un peu magique et donc il faut se laisser porter, il faut accepter peut-être de perdre un petit peu pied et puis ensuite d'apprendre à mieux comprendre et connaître l'autre et donc de s'adapter. Et c'est important également pour deux amants parce qu'il vous va falloir prendre le temps pour avancer ensemble avec ce que chacun sait et puis ce qui marchait pour chacun et puis ce qui va marcher pour les deux, pour cette nouvelle rencontre. Et c'est ça qui enrichit la sexualité de deux êtres, hein. C'est à la fois les connaissances et les comportements de chacun, mais aussi ce qui va devoir se mettre en place pour que cette nouvelle rencontre sexuelle fonctionne. Donc chacun vient avec des expériences différentes et apporte ce qu'il a apporté et s'adapte à l'autre et reste ouvert aux nouveautés que l'autre apporte. Et à partir de ce moment-là, ça marche plutôt bien. Voilà. Notre guide aujourd'hui, c'est Arnaud Rioux. Bonjour, excusez-moi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez, on va aujourd'hui guider ceux qui nous écoutent vers le chamaning. Et vous êtes coach hein, pour les dirigeants, ce qui paraît a priori assez curieux. Mais vous avez eu envie de réveiller le chaman qui est en nous. C'est un livre qui était sorti aux éditions Solar. Je crois que la première question qu'il faut vous poser, c'est quoi le chaman? Parce que je crois que dans notre monde occidental, on en a tous plus ou moins entendu parler, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui saurait en donner une définition.
Non, parce qu'on a beaucoup d'images sur le chaman. Dans l'étymologie, le chaman, dans la langue, ça vient du Tougnou, c'est une langue de Mongolie, et le chaman, c'est celui qui détient la connaissance. Et la connaissance n'a rien à voir avec le savoir. Le savoir, c'est tout ce qu'on peut apprendre dans les bouquins, sur Internet, etc. La connaissance, ça vient de la sensibilité, de l'ouverture du cœur.
Oui, c'est quelque chose qu'on a vécu, enfin, expérimenté.
Ouais,
bien
ouais.
sûr. Oui. On peut être un très bon sexologue parce qu'on a lu tous les livres de sexologie, mais si on n'a pas été sur le terrain, on n'a pas la connaissance. Hein,
c'est exactement voilà. pareil. Ouais. On peut avoir une très bonne connaissance des religions sans jamais avoir rencontré Dieu, et on peut avoir voilà. Donc c'est vraiment ça le chamanisme, comme le tantra, comme d'autres sciences. C'est une invitation à ressentir et à expérimenter. Et à partir du moment où on a expérimenté, ce qu'on a expérimenté devient très personnel et très intime. Et c'est ça qui nous nourrit, qui nous change le regard sur le monde.
Arnaud Rioux, il me semble que dans notre monde occidental, en tout cas en France, la première fois où le chamaning est devenu un peu populaire, c'est avec les sorties des livres de Castaneda, non?
Probablement, et encore c'était populaire et c'est resté quand même assez
discret.
Oui,
bien sûr, bien sûr.
Là maintenant on en parle beaucoup parce qu'il y a un peu une rencontre, c'est-à-dire que les thérapeutes intègrent beaucoup le chamanisme parce que voilà, les thérapeutes s'ouvrent, les thérapeutes, les coachs, on s'est ouvert. Tout ça s'est rencontré beaucoup, la psychologie, les sciences de l'homme, les arts martiaux, le feng shui, toute cette connaissance s'est ouverte de plus en plus à l'invisible. Et aujourd'hui, entre des pratiques liées à l'hypnose, par exemple, et le chamanisme, c'est très très proche. Donc on s'inspire, des fois sans le savoir, de pratiques chamaniques qu'on intègre dans notre quotidien, dans la médecine, dans les soins alternatifs. Ça trouve sa source dans le chamanisme, mais ça prend d'autres mots, d'autres noms.
Et alors, quel est l'avantage? On peut redévelopper son énergie, aller être en meilleure santé. Ça apporte quoi finalement?
À titre individuel, ça permet d'être plus vivant. Déjà plus vivant, de ressentir davantage, d'être moins dans le mental, de beaucoup plus ressentir. Et le chaman, en fait, il est intégré à son environnement. Donc il apprend à ressentir aussi bien les autres êtres humains que les animaux, que les végétaux et que tous les mondes invisibles. Et donc c'est ce qui nous permet, de façon très concrète, par exemple en rentrant dans une maison, ça nous arrive à tous, on rentre dans une maison et on a soit une bonne sensation, soit une mauvaise sensation. Et c'est pas une histoire de papier peint ou de taille de l'appartement, on se sent bien parce que...
Les ondes vibratoires.
Les ondes vibratoires, voilà, on se sent accueilli ou au contraire on se sent rejeté. Et c'est pareil quand on rencontre quelqu'un, c'est pareil quand on visite une ville, il y a tout un monde invisible qui est là, et le chaman apprend à développer suffisamment sa sensibilité pour rentrer en communication avec ce monde invisible qui fait complètement partie de notre monde.
Alors, moi, je ne suis pas spécialement chamane, Arnaud Rioux, mais il me semble que les premières expériences de cet ordre, je les ai eues lorsque j'avais fait mon stage de magnétisme. Mmh. J'ai l'impression que moi, j'ai du magnétisme, je peux magnétiser, bon, c'est un truc, voilà, je suis un peu sorcière, hein, mais il ne faut pas le dire. Est-ce que justement, c'est ça, par exemple, je me souviens, on avait été auprès des arbres, on avait senti des choses comme ça très 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 étonnantes, hein, des comme s'il y avait des forces qui se transmettaient de l'arbre, ouais, à nous. Enfin, c'est très troublant d'ailleurs, hein, les premières fois.
Dans un premier temps, c'est très troublant, et en même temps, c'est quelque chose de très naturel. Moi, j'ai la surprise depuis que le livre est sorti, j'ai énormément de courriers de lecteurs, de personnes qui me disent, mais en fait, je me rends compte que toutes ces sensations, je les ai, mais j'y prête jamais attention. Alors, il y a tout ce qui concerne la guérison. On est très nombreux à effectivement pouvoir apaiser une blessure par imposition des mains, mais il y a d'autres sensations. Par exemple, ça vous est sûrement arrivé, on pense à quelqu'un et la personne appelle 3 minutes après, on rêve de quelqu'un et on le rencontre. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, toutes ces sensations qui sont assez fugitives, on les laisse de côté, on les oublie en disant, bon, c'est une coïncidence, c'est un hasard. Le chaman, lui, rentre vraiment en détail avec ça pour développer ces qualités-là. Et moi, je me suis rendu compte, depuis que le livre est sorti, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent, mais en fait, moi, j'ai ces perceptions, mais je sais pas quoi en faire, et je les utilise pas, mais j'ai cette sensibilité, j'ai cette intuition, cette médiumnité, ce troisième œil qui me permet, mais je sais pas quoi en faire.
Ben justement, on va les guider, tous ceux qui nous écoutent, pour qu'ils puissent en faire quelque chose. J'ai l'impression que le Alexandro Zodorowski serait le bel exemple du chaman le plus populaire en France, non?
Oui, c'est d'accord. Il y a quelque chose de très libre chez lui, et les chamans sont libres. Ils sont libres parce qu'ils sont quelque part, ils sont pas de ce monde-là. Ils sont dans ce monde-là aussi, mais ils sont complètement ailleurs. Donc ils ont la possibilité de créer, ils rentrent dans d'autres grilles de lecture, et il y a quelque chose avec l'art. Jodorowsky est un artiste, c'est un médium, c'est un créateur.
Il est libre sexuellement aussi.
Il est libre sexuellement, il est libre de son image, il est pas du tout prisonnier de, donc il a fait tout ce travail de nettoyage, et du coup il est libre. Et moi, tous les chamans que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie sont avant tout des êtres libres, complètement libres de l'image, parce qu'ils sont ici, complètement ici, et en même temps complètement ailleurs.
Et en même temps, on peut quand même aussi avoir peur, ou voire critiquer, parce que il y a une utilisation parfois un peu maléfique, hein, du chamanisme.
Le chamanisme, c'est un pouvoir, et on pourrait dire la même chose de la radio, de la voix. Quelqu'un qui maîtrise la communication, on peut en faire une utilisation.
Oui, Claire avait une voix très très magnétique, voilà, et on voit ce qu'il en a fait.
Et les orateurs sont les communicants peuvent se mettre au service de la lumière, au service de l'ombre, et les pratiques de chamanisme, de magie blanche ressemblent étrangement aux pratiques de magie noire. Tout ce qui change, c'est l'intention. C'est que l'intention n'est pas la même. Dans un sens, on va pratiquer pour soigner, pour apporter de la paix, pour apporter de l'harmonie. Et c'est ces mêmes pratiques qui sont utilisées dans l'énergie sombre, hein, comme tout.
Bien sûr. Alors Arnaud Rioux, voilà, est-ce que tout le monde peut développer, éveiller le chaman qui est en lui, puisque c'est le titre de votre ouvrage.
C'est le titre du livre. Alors pour moi, potentiellement, on a vraiment tout ce potentiel. Maintenant, si vous venez manger à la maison, je peux vous préparer une bonne omelette aux champignons, je peux préparer une bonne salade. Je suis pas chef cuisinier pour autant. Hein, je joue de la guitare, je peux chanter comme ça tranquillement. Je suis pas forcément grand musicien professionnel. Le chamanisme, c'est pareil. Il y a différents. On a tous accès à développer notre sensibilité, développer notre intuition, notre médiumnité, capacité à soigner.
Donc c'est développer le cerveau droit, en quelque sorte.
Développer le cerveau droit, développer toutes ces capacités-là. Maintenant, de là à se dire ok, je suis chaman, là c'est autre chose, parce que il y a comme un label. En Mongolie, là j'étais l'été dernier en Mongolie, il y a un diplôme de chaman, hein, qu'on donne au bout de 7 ou 8 ans.
Alors quels sont les exercices à faire pour avoir le diplôme?
Alors c'est très concret. On s'est par exemple réveillé un matin et puis les chevaux étaient plus là. Et quand c'est comme ça, en Mongolie, quand on perd ses chevaux, c'est un peu embêtant, parce que c'est les grandes steppes, et donc alors on va voir le chaman, et le chaman avec un jeu d'osselets va jeter les osselets, va regarder le soleil, il va dire ok, les chevaux ils sont dans cette direction là, il faut deux personnes qui partent pendant 3 heures, et dans 3 heures vous les retrouvez. Et là, si on se trompe de 4 degrés, de 5 degrés, on retrouve pas les chevaux, et ça c'est embêtant pour les... Donc les chamans vont avoir cette précision, ils vont avoir la même chose. Là j'étais sur l'île de la Réunion la semaine dernière, il y a en ce moment sur l'île de la Réunion, il y a les ananas qui sont malades, donc il y a les ananas sont en train de pourrir sur place, une épidémie. Et donc à ce moment là on va poser la question aux chamans en disant qu'est-ce qui arrive aux ananas, et les chamans vont rentrer en lien avec l'esprit invisible des végétaux, des ananas, pour identifier ce qui se passe et trouver exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça. Donc c'est très concret, quoi.
Oui, mais à vous écouter, j'ai l'impression que finalement le chaman c'est un sorcier, quoi, au sens, enfin c'est un peu le même, c'est ce qu'on appelait les sorciers avant.
C'est une forme de... Après c'est tellement proche, parce que le chaman est un guérisseur, c'est un médium, il fait de la magie, donc il est un peu tout ça. Après, certains chamans vont vraiment développer une qualité plus qu'une autre, et ça a quelque chose de très concret. Particularité du chaman, c'est qu'il dialogue avec les esprits tout le temps. Les esprits de l'invisible, les esprits des défunts, les esprits d'un lieu, les esprits d'un lac. Voilà, et donc il va rentrer en communication avec les esprits pour avoir des informations qui nous concernent.
Mais dans notre monde très cartésien, c'est peut-être un message pas toujours facile à faire passer, Arnaud Rioux, non ?
Cartésien, ça vient de Descartes, et c'est a priori celui qui va maîtriser l'environnement en se considérant comme extérieur de l'environnement. Le chaman, il est conscient qu'il fait partie d'un système. Et aujourd'hui, je crois que si on va si mal au niveau de la planète, au niveau de l'écologie, au niveau de... C'est qu'on a oublié qu'on faisait partie d'un écosystème. Et c'est amusant, je me suis rendu compte de ça en écrivant le livre. Le chaman, c'est celui qui détient la connaissance. Et l'homo sapiens, l'étymologie, c'est celui qui détient la connaissance aussi. Et en même temps, on est la seule espèce aujourd'hui à être capable de s'autodétruire, à mesurer la vitesse avec laquelle on s'autodétruit, et compte tenu de ces informations, on accélère la rapidité avec laquelle on s'autodétruit. Donc on est en train de détruire nos ressources, de détruire les végétaux, les animaux, etc. Vous imaginez, 1300 milliards, je lisais ça, 1300 milliards d'animaux qu'on tue chaque année. Donc on est dans une espèce de course en croyant que d'immaturité. Les chamans appellent les occidentaux les petits enfants de la terre, les petits garçons, les petits.
Oui.
Parce que il y a cette espèce d'inconscience de vouloir tout dominer et de rien comprendre et de pas prendre le temps de ressentir.
Et j'irais même jusqu'à dire qu'on a quand même pratiquement détruit tous les peuples très chamaniques. Je pense par exemple aux Indiens. C'est quand même eux qui ont dit cette phrase magnifique que la terre appartient aux enfants, hein,
ouais,
à nos enfants.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que les Indiens ont été massacrés. Enfin bon, ils sont maintenant dans des réserves et souvent très alcoolisés parce que tellement on les a. Il y a d'autres peuplades comme ça qui ont été.
Toutes les peuplades, c'est la même chose. Et moi, c'est quelque chose. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer aussi bien des maîtres amérindiens, tibétains, chamans, mongols, etc. Et j'ai toujours la même, vraiment une blessure dans le cœur quand j'entends ces histoires, parce que je trouve ça d'une violence incroyable d'avoir à ce point-là. Et on assiste, nous, notre civilisation, à l'extinction quelque part de cette, non seulement de ces peuples, mais de cette culture d'une richesse incroyable. 70% des médicaments qui sont utilisés aujourd'hui ont trouvé leur source par les chamans, par les
plantes,
hommes de médecine, par les plantes,
oui,
qui ont identifié les donc il y a une connaissance qui est extraordinaire dans le chamanisme. Il y a une connaissance extraordinaire des animaux, des végétaux, des minéraux, et on balaye tout ça en un rien de temps, quoi, en fait.
Mais alors, je sais plus qui a dit cette phrase, et je pense qu'elle va vous plaire, Arnaud Rioux. On admire Dieu, on le respecte, on considère que c'est grâce à lui que la nature existe, que les animaux existent, et on ne respecte ni la nature ni les animaux. Je trouve cette phrase très intéressante et qui mérite peut-être d'être un peu mieux pensée aujourd'hui, où en effet la nature, les animaux sont en perdition.
Ouais. Et pour le chaman, le divin est partout. Il est pas dans le ciel, il est partout. Et c'est ce qui fait qu'il y a un esprit de l'animal, il y a un esprit, un deva, on appelle le deva d'un animal, mais il y a un deva des chevaux, il y a un deva des animaux, il y a un deva des végétaux, des minéraux, et tout est vivant. Et ce divin est partout. Il est pas dans le ciel et il est pas, c'est surtout pas, en tout cas, une entité inaccessible.
On a Jérôme qui a envie d'en savoir un peu plus, justement. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour messieurs, dames. Moi, je suis assez surpris parce que je me posais la question, est-ce que c'était le fait d'avoir, après tout, un chaman, ça, on peut éventuellement l'imaginer nous-mêmes, et c'est si on peut se servir de pensées uniquement positives, surtout pour avancer, pour évoluer, aimer, tout simplement, c'est... Je sais pas, c'est une réflexion.
Est-ce qu'on peut se servir de pensées positives pour aimer, c'est ça?
Voilà.
Pour le chaman, on crée notre réalité. Et tout ce qui arrive dans ce monde, il y a deux dimensions. Il y a le manifesté et le non-manifesté. Tout ce qui arrive dans le manifesté, c'est-à-dire dans le monde concret, nos relations, notre travail, etc., ça a été créé d'abord dans le non-manifesté par la pensée que nous, on émet dans l'univers.
Par notre désir.
Par notre désir, par notre intention. Et c'est ce qui fait que pour le chaman, on crée notre réalité complètement.
Oui, mais alors c'est une personne imaginaire. Vous avez rencontré des personnes entre guillemets sorciers qui aident par les plantes, par tout ça, mais pour nous ça peut être quelqu'un d'imaginaire.
Ah, est-ce que vous pouvez... Ah ben tout à fait, vous pouvez... enfin imaginaire, mais vous pouvez aussi, en vous connectant sur eux, les rencontrer, hein, c'est possible. Après, il y a...
Est-ce que par exemple, ce serait ce qu'on appelait un certain moment, il y a eu un phénomène comme ça dans les années 85-90 de notre ange gardien, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond un peu à ce que vous décrivez, Arnaud Rioux?
Les anges gardiens, si dans le chamanisme, ça correspondrait plus aux animaux totems, par exemple.
D'accord. Hein,
c'est les anges gardiens du chamanisme, mais le chaman est quelqu'un de très concret en chair et en os. Hein. C'est vraiment un être humain très concret. Hein.
En fait, Jérôme, un chaman, c'est quelqu'un, ou une, hein, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est d'abord qui est libre, hein, on l'a dit, et qui a une véritable relation, si vous voulez, entre le monde et son monde intérieur. Est-ce que ça vous parle, ça, Jérôme?
Oui, je comprends bien que c'est une personne... Oui, d'accord, je comprends très bien, mais nous, en France, le chaman, pour en rencontrer un, ça me paraît compliqué.
C'est en France, ça devient difficile, et dans le monde, ça devient aussi de plus en plus difficile.
Voilà.
Parce
donc
que...
je me posais la question, est-ce que d'avoir une imagination et d'avoir une réflexion envers soi-même, est-ce qu'on pouvait pas éventuellement pratiquer quelque chose de positif pour avancer, pour voir plus tard, pour être beaucoup plus serein envers soi-même.
Sur un plan, oui. Sur un plan, bien sûr, que vous pouvez vous-même vous connecter à une entité, peu importe le nom que vous lui donnez, mais une entité qui vous fait du bien. Après, sur un plan réel, oui, le chaman, il va nous enseigner, on va apprendre avec lui. Hein. Alors c'est vrai que ça devient difficile à rencontrer en France, mais dans le monde entier, ça devient difficile à les rencontrer.
Mais Jérôme, je crois que c'est tout simplement déjà un dialogue que vous pouvez faire avec vous-même qui va vous permettre d'avancer plus dans la direction qui correspond à vos désirs et non pas penser que les événements de toute façon vous emprisonnent dans un cheminement dont vous n'avez aucune capacité à faire autrement quoi.
Voilà. Je comprends bien, voilà. Non, c'est intéressant.
Merci Jérôme, en tout cas, de nous avoir rejoints. Merci à vous. Et puis on continue avec notre fil d'Ariane, des histoires où les sextoys sont confondus avec des armes à feu, voilà.
Mais oui, on va vraiment regarder définitivement les sextoys d'un autre œil. Ce n'est pas une arme de plaisir, mais une arme de guerre, c'est ça qu'il faut comprendre. Regardez ce qui s'est passé il y a peu de temps aux États-Unis.
Oui, vous nous l'aviez raconté, je crois.
Oui, hein. C'est ça. On a eu le fin mot de l'histoire parce que, en fait, tout le monde s'interrogeait, mais qu'est-ce qu'il y avait? Il avait braqué une banque en disant qu'il avait une bombe artisanale sur lui et il a récupéré tout le butin, il est parti dans sa voiture avec et au final, voilà, on savait pas ce qui s'était passé réellement. Et en fait, ils ont envoyé une équipe de démineurs sur place parce qu'ils avaient vraiment peur dans le véhicule pour réussir à récupérer cette fameuse bombe. Et là, au moment où ils sont arrivés sur place dans la voiture, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, la bombe n'était qu'en fait un vibromasseur qui
vibrait.
Voilà, et qui était caché simplement dans une boîte. Et le type, quand il est arrivé dans la banque, a vraiment fait croire à cette supercherie parce qu'il avait des fils qui dépassaient de son t-shirt. Et évidemment, c'est pour ça que le guichetier s'est tout de suite exécuté pour.
Dans le doute, il a eu raison. Hein.
Bah oui, non, mais évidemment. Mais bien sûr.
S'il avait été chaman, il aurait deviné que c'était pas une bombe.
Peut-être. Et puis, c'est un fantasme comme un autre de vouloir braquer une banque avec un vibromasseur.
Et puis, il y a aussi les campagnes de pub qui ont joué sur cette image-là de l'arme à feu. Alors, c'est vrai que...
De toute façon, l'arme à feu et le jouet, c'est phallique, hein, l'un comme l'autre. Hein.
Et voilà, et donc du coup, le slogan était « Make love, not war », faites l'amour, pas la guerre. Et effectivement, ils sont amusés à détourner toutes sortes de godemichés, soit en pistolet, des vibromasseurs également,
en
des
grenade,
œufs vibrants en grenade, et puis même en forme de balle, des simples godemichets aussi, qui avaient l'air en plomb, en cuivre, ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas,
c'est aux États-Unis aussi, j'imagine,
parce que c'est
quand même les armes à feu sont.
C'est aux États-Unis aussi, mais somme toute, est-ce qu'il y a un fantasme caché derrière ça, le sextoys aussi, si c'est assimilé aussi facilement à une arme à feu, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Vous, Brigitte Lève, votre avis là-dessus peut-être nous éclairer, parce que spontanément,
je pense que chacun uniquement. Fantasme ce qu'il veut, mais je trouve que ça a un côté. Enfin, moi, je suis pas sûre que ce soit une très bonne publicité parce que finalement ça rend encore une fois l'image de l'homme agressif, donc c'est pas forcément une très bonne publicité. Je suis pas sûre qu'une femme ait envie de s'acheter un godemichet en forme de pistolet, enfin je sais pas, c'est non, Arnaud,
le cœur dans tout ça, il est où?
Ça,
alors j'ai pas vu encore de vibromasseur en forme de cœur.
Il fait boum, le cœur il fait boum, il explose.
Ça me fait un peu froid dans le dos quand je vois ça quand même.
Non, c'est pas. Ça vous fait fantasmer vous?
Mais absolument pas. Et c'est pour ça que je m'interrogeais et je me disais, est-ce que ça pourrait être le fantasme de certaines personnes, que on connaît ce fantasme du viol pour certaines personnes. Je parle de fantasme encore une fois, mais pas celui de l'arme à feu forcément. Et là, je me l'expliquais mal, mais ça doit exister forcément puisqu'on communique dessus.
La grenade, ça nous fait exploser. Enfin voilà, on peut
enfiler la métaphore en fait.
Ben oui, je crois qu'on peut. Enfin, sur un plan symbolique, on peut peut-être le comprendre, mais en effet, je trouve pas que ce soit une. Je trouve que c'est un raccourci un petit peu agressif, mais bon, c'est mon avis. Et après tout, pourquoi pas. Hein.
Bon, prenez un amant en chair et en os, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous êtes sûr de pas vous faire mal. Quoique, je sais pas.
Bah aussi, vous savez quand même. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais pris d'amant, Ariane, quand même.
Ah jamais,
jamais. Oh, ben dis donc. Il faut que vous appeliez Stéphane Clerget et qu'il vous offre ce livre.
Il propose quelque chose, Stéphane Clerget.
Bah oui, l'amour la première fois.
J'ai cru autre chose. Bah mince alors. Bon bah ok, je vais l'appeler.
Allez, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez réagir au 32-16 si vous voulez des éclaircissements sur ce qu'est le chaman. On se retrouve dans un instant.
RMC, La Haye, l'amour et vous. RMC, La Haye, l'amour et vous. Brigitte La Haye.
Notre guide aujourd'hui, c'est Arnaud Rioux et on évoque le chaman, voilà. Alors moi, il y a quand même une question que j'ai vraiment envie de vous poser, Arnaud Rioux, parce que quand même, vous avez un parcours étonnant. Vous êtes conférencier, coach pour les dirigeants. Bon, ok. Ouais. Et là, vous revenez avec un livre, Réveiller le chaman, qui est en vous aux éditions Solar. C'est quand même le grand écart, non?
C'est le grand écart et je me suis interrogé avant d'écrire ce livre-là parce que ça fait partie de moi, le chamanisme, l'invisible. Depuis que je suis enfant, ça m'a toujours accompagné, cette relation avec l'invisible. Et disons que c'était un peu mon jardin secret, mais comme une partie de mon activité, c'est d'accompagner les dirigeants, les coachs, les chefs d'entreprise, etc., à développer leur leadership, leur charisme, leur intuition. Moi, mes sources, c'était là, j'ai appris avec les maîtres tibétains, j'ai appris avec les Amérindiens, donc ça faisait vraiment partie de mon bagage. Et à un moment donné, justement, je sentais ce grand écart et comme j'ai eu besoin de rassembler, de se dire tout ça, ça fait partie de mon parcours, et j'ai vraiment eu ce besoin de rassembler toutes ces parties de moi. Et donc, ce bouquin, on est vraiment le fruit de rassembler des choses qui peuvent sembler antagonistes, mais au contraire, pour moi, ça m'a beaucoup nourri. Le chamanisme m'aide à développer mon intuition. Les arts martiaux m'ont aidé à autre chose, et c'est tout ce parcours qui fait l'homme que je suis.
Mais vous voyez, ça confirme ce que je crois depuis très longtemps. Moi, j'avais lu il y a 2 ans, je crois, un livre de David Goldman sur l'intelligence émotionnelle, et il montrait bien dans toutes ces enquêtes qui ont été faites aux États-Unis, les chefs d'entreprise qui ont vraiment réussi, c'est tous des hommes ou des femmes qui ont une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qui ont développé leur cerveau droit. Ouais. C'est-à-dire que pour réussir professionnellement dans la vie en tant que chef d'entreprise, il faut quand même avoir un peu de chaman en soi, quoi. C'est ça aussi que vous êtes en train de dire.
Et moi, j'ai eu la chance d'accompagner des hauts dirigeants qui justement prennent des décisions très importantes
très rapidement,
intuitives, qui sont à contresens total, c'est-à-dire que toute leur staff technique va leur dire mais pourquoi on fait ça, c'est complètement, et eux ont une intuition d'aller très très fort vers ça, et c'est en allant vers ça qu'effectivement il y a des entreprises qui sortent du lot, quoi.
Exactement. Alors il y en a par contre qui, à mon avis, n'ont vraiment pas éveillé leur chaman en eux, c'est les hommes politiques.
Aïe.
Vous êtes d'accord, c'est effrayant.
C'est terrible. Je regarde ce qui se passe en ce moment au niveau de l'écologie, c'est hallucinant de voir que cette discussion sur l'écologie est réduite à quelque chose de complètement accessoire, alors que c'est vraiment la seule question qu'on peut se poser aujourd'hui. On fait partie d'une planète, on est en train de détruire cette planète à une vitesse vraiment grand V, et on continue à ne parler que de croissance, comme si la croissance était associée au bonheur, alors que ça n'a rien à voir.
Ouais, d'économie, Je pense que c'est peut-être tout le paradoxe du pouvoir. Il me semble que le chaman est quelqu'un qui a un énorme pouvoir, mais un pouvoir, j'allais dire, intérieur, et l'homme politique veut du pouvoir, mais du pouvoir extérieur. Et c'est peut-être ce paradoxe-là que l'être humain doit à un moment donné comprendre. La toute-puissance n'existe pas, mais la seule puissance qu'on peut avoir, c'est la puissance du chaman, non?
C'est pour ça que, pour savoir, pour moi, si un être a vraiment du pouvoir, je pense à un homme politique, il suffit de lui poser la question. Si jamais on interrompt toutes les fonctions, est-ce que tu es toujours dans ton pouvoir? Et les chamans, par exemple, peuvent être aussi bien dans une relation sociale qu'être complètement seul dans la forêt pendant 3 ans. Ça ne va rien changer à leur charisme et à leur stabilité. Et chez les hommes politiques, il y a justement le fait d'être accroché à un statut, et le fait d'être accroché à un statut leur fait perdre leur propre pouvoir intérieur.
Absolument. Et puis on les voit bien. Ils sont prêts à dire n'importe quelle grosse connerie pour participer dans plein de médias dans la même semaine.
C'est énorme.
Bref. Donc ce serait peut-être ça aussi qu'il faut comprendre si on veut, si on veut améliorer le monde de demain, c'est revenir à ce pouvoir intérieur et non pas cette toute puissance extérieure qui est en effet politique, économique.
C'est difficile de prendre le pouvoir quand on veut avoir le pouvoir sur les autres alors qu'on n'a déjà pas le pouvoir sur sa propre vie. Et par rapport à la sensibilité, moi j'ai eu la chance d'accompagner des fois des dirigeants en forêt ou dans le désert, dans des endroits vraiment reculés, des hommes pragmatiques qui sont des chefs d'entreprise, et quand on se retrouve dans le désert, quand on est coupé, qu'il n'y a pas de portable, qu'il n'y a pas de télé, qu'il n'y a pas de journaux, qu'il n'y a rien, qu'on est vraiment entre hommes, c'est le cas de le dire, et qu'il faut aller trouver du bois avant la tombée du jour, de la nuit pour faire le feu. Là, on retrouve quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus incarné, de beaucoup plus plein de bon sens en fait. Les hommes politiques manquent de bon sens, c'est flagrant,
Oui.
Et c'est pour ça que la chance que j'ai quand je fais ces voyages-là, c'est de ramener à quelque chose, de ramener à l'humanité à son cœur avec les groupes que j'accompagne, parce qu'on retrouve des relations beaucoup plus vraies, beaucoup plus pleines de bon sens. Quand j'emmène des gens en forêt, par exemple, je vais en forêt de Brocéliande régulièrement en Bretagne, et au bout de 3 jours, notre sensibilité...
Surtout cette forêt-là,
c'est extraordinaire. Ouais. On a des joyaux en France, et en 3 jours, notre sensibilité est multipliée par 4 ou par 5, et déjà, au bout de 3 jours, quand on a passé 2 nuits dans la forêt, on va capter la présence des biches, des chevreuils qui nous approchent. Notre sensibilité se développe, notre odorat se développe, notre vue s'améliore, notre ouïe s'améliore. Et ça, vraiment, en quelques jours, on peut développer ces qualités-là.
Alors, pour conclure, Arnaud Rioux, puisque le but, c'est aussi de guider chacun qui nous écoute à éveiller en lui ces capacités-là. Je pense à toutes ces personnes qui sont un petit peu sur le côté parce qu'ils se retrouvent au chômage, toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas le travail qu'ils ont envie d'avoir. Est-ce que, justement, c'est pas aussi en éveillant ce pouvoir intérieur qu'on peut mieux vivre la situation, même si la situation, évidemment, n'est pas facile?
Quand on est dans un cercle de vertueux, comme quand on est dans un cercle vicieux, on peut faire l'expérience qu'on va contribuer à nourrir l'un et l'autre. Et quand on est, dans l'exemple que vous prenez, quelqu'un qui est au chômage et puis qui est en fragilité émotionnelle et qui est en fragilité, le danger, c'est qu'il attire à lui après toutes ces énergies négatives. Et c'est de l'intérieur. Le poussin, quand il sort de la coquille, il tape de l'intérieur. Et nous, c'est de l'intérieur qu'on va déjà changer notre état d'esprit, qu'on va déjà changer notre vibration. Et en changeant notre vibration, on va attirer à nous les situations qui correspondent. On remarque les hommes, les femmes, par exemple, qui sont dans une belle vibration, qui sont amoureux de la vie, vont attirer à eux un homme ou une femme qui correspond, alors que celui qui est aigri, qui est fermé, va pas attirer ça. Et c'est la même chose pour le travail, c'est la même chose pour la richesse, c'est la même chose pour les relations harmonieuses. On attire à nous ce qu'on est prêt à attirer intérieurement.
D'accord, mais alors comment on fait? Quel est le premier conseil que vous pouvez donner?
Se faire confiance. Se faire confiance. Et se faire confiance, ça passe par l'estime de soi. Pour moi, on a vraiment en France, en Europe, quelque chose qui est lourd avec ça. On se juge tout le temps parce qu'on n'est pas assez, parce qu'on se sent pas digne. Oui, on est digne, on peut se dire ça, on peut se répéter, je suis digne d'être heureux, je mérite d'être heureux, je mérite d'être épanoui dans ma vie amoureuse, professionnelle. Et plus on le répète comme un mantra, plus on attire à nous les situations. Et ça demande de développer une foi profonde qui dépasse toutes les religions et toutes les circonstances extérieures.
Bon, ben voilà de quoi passer un excellent week-end. Arnaud Rioux, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de ce livre, Réveiller le chaman, qui est en vous, c'est aux éditions Solar. Lundi, nous serons en compagnie de Michel Lejoyeux, on va aussi réveiller vos désirs. Et c'est Emmanuel Pierrat, il est avocat. Comment faire retirer les photos qui sont coquines et qui sont sur le net? Ce sera notre guide du jour pour lundi. Tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Vincent Moscato pour le Super Moscato Show. Bonjour Vincent.
Et oui Brigitte, le Super Moscato Show ce soir, c'est une veillée d'armes. Oui, on est en quart de finale contre les Blacks demain. Les métiers de la viande, de la boucherie, ça va envoyer du bon. On est là pendant 2 heures dans le Super Moscato Show. On arrive
sur RMC. Ne ratez rien de l'AL Amourez-vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.